Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes ravis d'être encore là avec vous et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Comment promouvoir l'écotourisme en République démocratique du Congo? On en parle à présent avec M. Claude Munguemo, chargé de la recherche au sein de l'ASBEL Mbou Montour. Monsieur Claude, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations par rapport à l'écotourisme. Appelez au 081-890-6394. Écrivez-nous également. Non, pas à ces numéros-là. Appelez plutôt au 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Jean-Noël Mukundo, à la mise en onde de Tati Mapoukou, assure la coordination et la réalisation de cette émission au micro. C'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Retrouvez le flash info de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502 puis le 313 pour ne rien rater de l'actualité du pays. Le flash info de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement réservé aux abonnés, vous d'accord?
Encore une fois, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. La RDC dispose des parcs naturels, des aires protégées et des sites touristiques pouvant attirer de nombreux visiteurs nationaux et internationaux. C'est le cas par exemple des parcs de la Virunga et de la Salonga. Il y a également d'autres sites qui peuvent attirer les touristes tels que le jardin botanique de Kisantu, et des Yala et les sanctuaires Lola Bonobo à Kinshasa. Cependant, les secteurs touristiques congolais n'attirent pas assez de visiteurs depuis plusieurs années. Pourtant, ces secteurs peuvent constituer une source de revenus pour la République, à l'instar du Kenya, de la Tunisie, de l'Égypte et d'autres pays qui ont développé le tourisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour relancer le secteur touristique dans notre pays? Monsieur Claude Munguemo est chargé de la recherche au sein de l'ASBEL Mbou Montour. Monsieur Claude, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, Mbou Montour, de quoi s'agit-il?
Mbou Montour,
qu'est-ce que cela signifie, je veux dire?
Mbou Montour, c'est une ONG de conservation de la nature et du développement durable des communautés locales. Donc, Mbou Montour, le nom vient de la rivière. C'est le nom d'une rivière qui prend sa source juste derrière là où nous avons érigé notre ferme pilote. Cette rivière a une histoire. À l'époque, c'est là où venaient se baigner les bifles. Mmh. Alors, c'est un endroit vraiment historique pour nous.
C'est là, où?
Dans les territoires de Bonobo, village Kala, dans la province de Maïndombe.
Ok.
Donc, c'est pour cela, quand nous avons commencé l'ONG Mbou Montour, nous avons choisi cet endroit pour ériger notre ferme pilote.
Donc, c'est une rivière où venaient
se baigner les bifles.
Les bifles?
Oui, oui, à l'époque.
Oui.
Alors, nous avons érigé notre ferme juste à côté de la source là. Ainsi, nous avons baptisé l'ONG Mbou Montour. Donc, Mbou Montour, c'est en kiteke, on dit Mbou Montour.
Mbou Montour. Ankiteke.
Oui, oui. Nous avons essayé de franchiser ça
oui.
en écrivant Mbou Montour.
Ok.
Donc, Mbou Montour, c'est maintenant mon tour.
Et dans la langue locale, qu'est-ce que ça signifie?
Mbou Montour. Donc, les liés. Hein, les liés. Puisque c'est la source.
Mm.
C'est la source de tout. Mbou Montour, c'est la source de tout.
Donc, Montour, ce n'est pas le Moutou, l'homme, non?
Non.
Okay.
C'est un lieu d'inspiration.
Okay.
Donc, nous avons érigé notre base là-bas, dont la ferme pilote, pour nous rappeler de beaucoup de choses, de manière historique, quoi.
Mmh.
Okay.
Et jusqu'à aujourd'hui, ces animaux viennent se baigner là-bas?
Justement, à cause de la rareté de certaines espèces animales que nous avons constatées dans les milieux, entre autres les bifles, qui étaient très nombreux dans ces lieux, et à un moment donné, on a vu qu'on constatait une rareté, et puis on constatait aussi une déforestation. C'était la raison pour laquelle nous avons créé l'ONG Mbou Montour. Nous, les communautés locales du village Kala, appuyées par certains universitaires de la province, nous avons créé l'ONG Mbou Montour dans le but de conserver la nature, donc la biodiversité locale, et de promouvoir le développement local des communautés riveraines des habitats des bonobos.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites comme activité au sein de votre organisation?
Oh oui. Nous conservons les bonobos, donc nous faisons le suivi et l'habituation des bonobos. Donc nous avons 6 sites de suivi des bonobos. Les 3 sont voués, disons, consacrés à l'habituation des bonobos et les 3 autres pour des simples suivis qu'on appelle des monitoring. Alors, ces 3 sites d'habituation des bonobos.
C'est quoi l'habituation?
L'habituation, c'est donc habituer l'animal à la présence humaine pour des fins écotouristiques. Vous savez, les bonobos sont des animaux sauvages. S'ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas habitués à la présence humaine, s'ils ne tolèrent pas la présence humaine, dès que vous entrez dans la forêt, ils vont prendre fuite. Donc nous faisons l'habituation. Nous avons des pistères qui sont des natifs, des jeunes natifs de ces villages, qui sortent 4 heures du matin, ils sont déjà dans la forêt pour suivre les bonobos là où ils les ont laissés nicher la veille. Ils vont assister à leur réveil, ils vont les accompagner partout, ils vont circuler, manger dans la forêt, ils sont derrière et pour les habituer à la présence humaine. C'est ce qui fait que pour le moment, nous avons atteint un niveau d'habituation vraiment très accepté, quoi. À tel point que vous pouvez les observer pendant 4 heures du temps de suite sans qu'ils puissent prendre fuite et à une distance de moins de 20 mètres. Donc ils sont vraiment habitués. C'est ce qui nous permet d'effectuer les activités d'écotourisme. On amène des visiteurs qui s'intéressent à la présence des bonobos, ils viennent voir les bonobos pendant plusieurs heures de suite sans que ces bonobos...
Ils peuvent prendre des photos
Oui, ils prennent des photos, des vidéos, tout comme ça. Et aussi, il y a des chercheurs qui viennent travailler sur les comportements, l'alimentation et la vie sociale.
Le mode de vie des bonobos. Et là, c'est dans quel... Toujours là-bas, dans votre village?
Oui. Donc, nous avons 6 villages qui ont consacré leur forêt pour la conservation des bonobos. Nous avons les villages Nkala, Mpelu, Mbirima, Bojuna, Mbe, Maka.
Là, c'est toujours dans la province de...
Province de Maïndo, mais du territoire des bonobos, dans la chefferie des Bateke Nord.
Donc, dans les Maïndombe.
Oui.
Et depuis lors, comment ça se passe? Il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes qui viennent?
Oui, les gens viennent, les chercheurs, les visiteurs viennent, ils s'intéressent. Et surtout que nous avons notre canot rapide et notre baleinière qui
Vous les prenez à partir de Kinshasa?
Oui, à partir de Kinshasa.
Maluku.
Les baleinières les prennent à partir de Maluku, les canots rapides à partir de Yacht Club ici à Ndolo. On les amène jusqu'à Tchoumbiri. Et de Tchoumbiri, nous avons encore notre Jeep 4x4. Qui prend les visiteurs pour les amener jusqu'à la base. À la base, nous avons des infrastructures d'accueil. Nous avons 3 bâtiments avec 15 chambres.
Des hôtels, des chambres où
les visiteurs... Pas hôtels comme tels, mais des bâtiments vraiment bien effectués, bien aménagés pour accueillir les touristes. Nous avons au total 15 chambres avec des douches, tout comme ça.
Il y a l'eau, il y a l'électricité.
Il y a l'eau, nous avons aussi l'eau des forages sur place. Nous avons aussi l'eau des sources. Que beaucoup de visiteurs préfèrent prendre, surtout les Japonais, quand ils viennent, ils préfèrent prendre de l'eau des sources. Ils amènent même cette eau jusque chez eux.
Jusque chez eux là-bas.
Oui, puisque c'est vraiment potable. Ils ont dit que cette eau, nous avons fait des analyses, c'est vraiment potable.
Et il y a de l'électricité aussi. Nous avons sécurité.
La sécurité, nous avons des panneaux solaires, nous avons des gardiens qui assurent la sécurité dans la base. Et il y a des pisteurs qui travaillent dans la forêt. Quand les visiteurs viennent, il y a deux ou trois pisteurs vont travailler, donc vont marcher avec les pisteurs jusqu'au lieu d'observation des bonobos.
Et c'est à quelle distance? Il faut vraiment pénétrer la forêt?
Oui. Donc notre site d'intervention est à 300 km au nord de la ville de Kinshasa. Et de là, de la base jusqu'au site, cela dépend des sites. Il y a les sites de Kala, c'est juste derrière la ferme. Les sites de Mpelu, c'est à 12 km, le site d'Mbirima à peu près 8 km. Donc, comme nous avons des motos, nous avons les véhicules, ça prend les visiteurs jusqu'au lieu de, disons, à l'entrée du site, et là, les pisteurs vont marcher dans la forêt avec les pisteurs.
Et alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir l'écotourisme dans notre pays?
Pour promouvoir l'écotourisme, selon nous, c'est ce que nous passons dans Bumotour, c'est d'abord créer les meilleures conditions de sécurité. D'abord, puisque les visiteurs qui viennent d'ailleurs, quand ils attendent qu'il y a l'insécurité, il y a tel problème, ils ne viennent pas. Dernièrement, nous avons eu les sollicitations des visiteurs, mais qui finalement ont annulé leur voyage. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes au niveau des Kwamutu, et ils ont appris qu'il y avait des gens qui attaquaient des baleinières sur les fleuves. Comme nous prenons les fleuves, ils ont
Ils ont annulé le voyage.
Donc, c'est pour cela, la sécurité. La première chose, c'est la sécurité. Et deuxièmement, il faut.
Qui attaquait les bateaux là? Ce sont les Mobondo toujours.
Oui. Bien que maintenant, il y a la paix, il y a la calmie, les gens passent facilement. Bon, à part ça, il faut faire connaître ce que nous avons comme richesse, ce que nous avons comme produit touristique. On va les faire connaître comment? Par des marketing, hein, des publicités, tout consort, créer des écotours, des agences de voyage, tout consort. À partir de ça, les étrangers, ceux qui sont ailleurs, seront au courant que nous avons des produits touristiques que nous pouvons valoriser, que les visiteurs peuvent bien s'intéresser à ça. Donc, à part ça, il y a un problème aussi des moyens. L'État doit mettre des moyens pour l'accès, pour faire le tourisme. Il faut les voies de communication. Ici, pour atteindre Tchoumbiri, avec baleinière, ça peut vous prendre une journée, soit une journée et demie. Avec canot rapide, c'est 6 heures de temps. Mais par route, c'est 2 à 3 jours. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voies de communication, des voies routières praticables.
Donc, pour promouvoir l'écotourisme, il faut d'abord améliorer les voies. Vous avez parlé de la sécurité. Les voies de communication.
Les voies de communication, savoir faire aussi les marketing pour faire connaître ce que nous avons créé, une visibilité de nos produits touristiques.
Mais pourquoi vous ne faites pas assez de marketing pour faire connaître ce que vous faites avec Mbou Montour?
Oui. Si les gens viennent chez nous, c'est parce qu'il y a déjà des actions par rapport à ça. Nous avons les universités qui envoient leurs étudiants chez nous. Nous avons les chercheurs de l'université comme Harvard qui sont, pour le moment, et au moment où je te parle, ils sont là chez nous en train de travailler. Comment ils ont su que chez Mbou Montour, il y a tel produit, il y a des produits sur lesquels on peut mener des recherches? Parce que nous avons fait des lobbying, nous avons fait des actions par rapport à ça. Nous avons les visiteurs qui viennent des Français, les Américains. L'autre fois, 3 ou 4 ans passés, nous étions visités par un ancien ministre de Bill Clinton. Comment il a su que Mbou Montour est là, il habitue les bonobos, il fait l'école du tourisme. Parce qu'il y a des échos, ils reçoivent les échos là-bas. Donc, nous travaillons par rapport à ça. Mais nous avons des moyens limités. Mais au niveau national, l'État aussi doit faire quelque chose, doit travailler sur ça par rapport à cet aspect de visibilité pour que les autres sachent qu'en RTC, en Mbou Montour, nous avons des bonobos. Bonobos, c'est une espèce endémique. On ne peut les trouver qu'en RDC, nulle part ailleurs. Et en RDC, le seul endroit où l'on peut observer les bonobos facilement, c'est dans son milieu naturel, c'est en Mbou Montour. Vous avez l'accès facile, vous avez un habitat mosaïque forêt savane, vous avez une forêt, vraiment, on peut marcher facilement. Ce n'est pas comme les forêts qu'on a ailleurs, les forêts inondées. Nous avons les visiteurs, vous pouvez entrer facilement avec les visiteurs et visiter les bonobos, vous rentrez dans la base. Donc, et on a une population locale qui est d'une hospitalité légendaire, qui accueille bien les étrangers. Vous voyez? Donc, tout ce que nous avons là, des paysages attractifs, la population, l'habitat, les bonobos,
tout ça
fait que nous sommes bien placés pour faire l'écotourisme.
Bien,
ça marche déjà.
Et ça marche déjà.
Oui.
Bien, on va accueillir Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jobi. Hein. Bonjour également à l'invité. Je pense que notre pays est en train de souffrir, tout simplement, et beaucoup d'argent sont en train de disparaître et de s'envoler, tout simplement parce que on n'a pas mis une bonne politique adéquate en rapport avec le tourisme. Vous vous rendez compte, monsieur Gier et monsieur Jody, nous avons un peu beaucoup d'espace ici chez nous pouvant peut-être attirer les touristes, les gens qui viennent en tourisme ici chez nous dans notre pays. Malheureusement, la politique ne suit pas. Je pense que le ministre est en charge du tourisme doit aussi révolutionner son ministère. Commencer peut-être par mettre une bonne politique en place. Question de pouvoir donner l'accès à tout ce que nous avons. Nous avons des parcs nationaux. Il y a des espaces à gauche, à droite, malheureusement, ici chez nous. Même dans les temps quand on avait les colonies de vacances où les enfants pouvaient se distraire, aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est bien, c'est construit. Il y a des maisons à gauche, à droite. Notre pays est en train de perdre beaucoup d'argent qu'il pouvait appuyer à son budget, malheureusement, parce que nous sommes en train de régresser en termes de politique qui doit être mise en place. Les gouvernements, parmi ses priorités, et c'est lui qui définit la politique générale du pays. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à exploiter ce secteur? C'est qu'il y a beaucoup de matières pour lesquelles nous devons mettre en place question de pouvoir. Nous avons une grande superficie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qui pouvait aider dans l'espace ou dans les cadres de tourisme, ça pouvait appuyer à notre budget. Il y a beaucoup d'argent dans le tourisme. Nous avons des rivières, nous avons ceci. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vu ici à Lubumbashi, hein, quelque part quand vous allez au golf, il y a un monsieur qui a construit sur la rivière. Il a mis des paillotes, il a mis de bonnes maisons là-bas, pouvant attirer des gens du golf qu'on appelle Kialuaya. J'ai admiré un peu ce coin. Je me dis, si tout le monde pouvait exploiter ça dans son milieu, dans les milieux urbains, même au village, notre pays pouvait appuyer, booster notre budget à partir de ce que nous avons dans les domaines de touristiques. Aujourd'hui, tout simplement, nous sommes en train de souffrir de notre propre souffrance parce qu'il n'y a pas une bonne politique d'accompagnement dans ce secteur. Et voilà pourquoi nous sommes en train de perdre des millions d'argent comme ça, des dollars, tout simplement parce qu'il n'y a rien qui avance sur ce terrain. Pour amener à révolutionner les choses, il faut que quelqu'un puisse concevoir qu'est-ce que les autres n'ont pas fait que je puisse faire aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut révolutionner les ministères, comme on le voit, par exemple, avec le ministère de l'Industrie, ce qu'il a fait, même celui de la Communication. Je pense que chacun pouvait peut-être emboîter le pas, ça pouvait amener notre pays à aller plus loin. Notre pays peut s'attirer beaucoup de touristes dans ce domaine, si nous mettons du sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup.
On parle aussi des chutes des cubes là-bas dans les Haut-Katanga qui sont magnifiques.
Tout à fait, Monsieur Gilles et Monsieur Pierre et Monsieur Jody. Je trouve que ici à Lubumbashi, malheureusement, tous ces coins qui pouvaient profiter aux avancées, bien sûr, de notre pays, et malheureusement, il y a certains gens mal intentionnés qui sont en train de construire même là où il ne fallait pas le faire, parce que c'était profitable pour le tourisme. Alors, je pense qu'il y a des milieux vraiment attirants sur ce point-là. Là, il n'y a rien à commenter. Merci beaucoup, Monsieur Jody.
Bien, merci. Bavon Ndonda, vous êtes aussi à Lubumbashi. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bavon a envoyé plutôt un message et il nous dit que les autorités congolaises négligent ces secteurs. Ils sont plus focalisés sur les mines et les loisirs. Ils payent des villes à des villas à l'étranger et le peuple congolais au lieu de promouvoir le tourisme dans notre pays. Monsieur Martin Milolo, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour à la radio de la paix. Bonjour à l'invité. Bonjour à tout le monde.
Vous êtes coordonnateur de la jeunesse pour la justice climatique. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour promouvoir l'écotourisme en République démocratique du Congo?
Oui, l'écotourisme, comme le voyage vert, a ceci de particulier qu'en plus du tourisme, hein, de la visite, a aussi un objectif de la conservation de la nature, de la protection de la biodiversité et des espèces menacées. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que nous sommes en train de parler ici, c'est la radio Okapi. Vous savez qu'Okapi, c'est l'espèce qu'on trouve qu'en RDC, qui n'est nulle part ailleurs. Et à ce niveau-là, il est important que non seulement il faut admirer cette espèce unique au monde, mais aussi promouvoir sa protection. Ce qui veut dire que, d'abord, il faut ce qu'on appelle le développement de l'éco-comportement. Ça veut dire que tout le monde, ce n'est pas seulement une question de pouvoir public, des autorités, mais c'est d'abord une question culturelle, une question qui concerne tout le monde, tous les gouvernants et les gouvernés. Développer ce qu'on appelle l'éco-comportement. Ça veut dire le comportement basé sur la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité. Et la deuxième des choses, il faut intérioriser le fait que lorsqu'on parle de tourisme, ce ne sont pas seulement les voyages pour les Européens, les étrangers. Les Congolais eux-mêmes peuvent promouvoir le tourisme local en visitant des espaces qu'on a énumérés et qui sont pleins dans notre pays. Et l'autre aspect, c'est l'aspect lié à l'éducation. Il est important de pouvoir montrer à notre jeunesse que le tourisme présente beaucoup d'avantages. Et dans le cadre de changement climatique, l'écotourisme présente beaucoup d'avantages. Sur le plan culturel, ça promet l'authenticité d'un peuple, la culture d'un peuple, l'identité d'un peuple, parce que vous avez des coins où vous pouvez rencontrer les peuples autochtones, savourer leur savoir-faire dans les domaines de la médecine, ainsi de suite. Et c'est aussi une source de revenus, comme les autres l'ont dit. Vous avez les pays comme l'Égypte qui se développe grâce uniquement au tourisme. Vous avez les pays comme le Kenya, où je viens d'être, où vous avez, à partir même du président de la République, vous voyez que le président va en tourisme et promet même ce tourisme-là. Et donc l'aspect éducationnel est très important, mais aussi, comme on l'a dit, il faut une vision bien clairement défini sur ce que nous attendons à faire par rapport à notre secteur du tourisme, mais à combiner avec l'aspect environnemental. Ça veut dire qu'ici, nous avons en place des ministères qui sont vraiment appelés à l'action, le ministère de l'Environnement, mais aussi le ministère du Tourisme. Nous devons avoir une politique interministérielle entre ces deux départements d'État pour non seulement faciliter le déplacement, parce que vous savez, pour se déplacer il y a des règles. On peut pour ce qui est des Congolais, c'est facile, mais pour ce qui est des étrangers, il faut d'abord obtenir les titres de séjour, il faut avoir les visas. Et pour notre pays aujourd'hui, c'est parmi les pays qui sont en tout cas difficiles dans l'octroi de visas pour certains pays. Il faut favoriser ces politiques là pour être plus accessible, afin de pouvoir promouvoir cela. Mais il y a aussi l'aspect sécuritaire. Aujourd'hui, par exemple, nous avons autour des parcs une centaine de groupes armés. Vous ne pouvez pas avoir des personnes ou des visites dans ces conditions-là. Et c'est cette crise-là sécuritaire menace non seulement les visites, mais aussi les espèces protégées, les espèces rares qui se trouvent dans ces parcs-là. Et donc,
d'accord. Voilà, d'accord, Monsieur Martin, restez en ligne, le temps d'accueillir Martin de Mouéka. Bonjour.
C'est Jean-Pierre de Mouéka.
C'est plutôt Jean-Pierre de Mouéka. Nos excuses. Bonjour Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au développement de l'écotourisme?
Oui, bonjour Monsieur Jeudi, bonjour aussi à l'invité. Je la remercie d'abord pour cette bonne initiative. Je voulais demander par rapport à ce que tu es en train de dire. Ces animaux, les bonobos là, est-ce qu'il a la maîtrise sur les nombres de combien d'animaux ils ont en réalité? Est-ce que ces animaux là sont bloqués quelque part, ou soit ils partent en brousse, ils reviennent? Parce que j'étais en train de demander comme ça, parce qu'il a dit là-bas, il y a des gens qui viennent, ils se tirent des photos avec ces animaux-là. Mais voyez un peu, un animal, pour l'habituer, il faut au moins beaucoup de temps. Et alors, s'ils n'ont pas la maîtrise sur combien d'animaux ils ont déjà habitués, il y a risque de créer des dégâts entre les gens qui viennent visiter et les animaux. Ça, c'était ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, pourquoi ils ont pensé tellement habituer les bonobos? C'est parce qu'ils sont rares, c'est parce qu'ils ont cette facilité-là de s'habituer aux gens, ou soit c'est quoi? Pourquoi ils ont pensé seulement à d'abord habituer les bonobos? Est-ce qu'il y a aussi possibilité d'habituer, par exemple, comme les serpents et d'autres espèces? C'était ça, mes deux préoccupations, monsieur, je dis.
D'accord, merci. Alors, monsieur Claude, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur?
Oui, merci beaucoup à l'auditeur. Ces questions sont vraiment intéressantes. Par rapport au nombre des bonobos habitués, d'abord, dans les sites d'intervention, d'après les dernières, disons les derniers inventaires, nous avons à peu près 755 individus dans la région. Alors, par rapport à la densité, nous avons une densité de 2,1 km individu par kilomètre carré. Alors, par rapport au nombre des individus habitués, nous avons 6 sites. Il y a aussi d'autres sites qui sont en construction. On est en train d'habituer, de former les pistères. Nous avons ces 6 sites-là, mais nous habituons les bonobos seulement dans 3 sites, puisque d'après l'UICN, on ne peut pas habituer plus de 3 communautés de bonobos dans un site d'intervention. Alors, les bonobos qui sont habitués, nous en avons à peu près 200. Pourquoi? Parce que dans chaque site, je donne l'exemple des sites d'Inkala où nous avons 12 individus qu'on est en train d'habituer. Les sites d'Impelou, nous en avons à peu près 11 individus, puisqu'il y a toujours des départs et des nouveaux venus qui arrivent dans les sites, puisque les jeunes femelles, à un certain moment, ils quittent leur communauté de départ pour aller chercher d'autres communautés et s'accoupler avec d'autres mâles. Alors, à part ces mouvements-là, disons, ce que nous avons pour le moment, c'est autour de 200 individus qu'on est en train d'habituer dans les différents sites. Là, je donne les nombres pour les totales des sites, puisqu'il y a des sites où nous avons 45 individus, il y a des sites où nous avons 32, et il y a des sites où nous avons des individus bien connus, bien identifiés, avec des noms. Quand je vois l'autre là, c'est Nala, son enfant, c'est Nono. Donc les individus sont identifiables et ils ont des noms et on a des critères de caractère qui nous permet de les reconnaître. Que c'est ça. Et l'autre question, c'était quoi? Il a dit pourquoi nous avons habitué seulement les bonobos.
Les bonobos, pourquoi toujours les bonobos? Il n'y a pas d'autres espèces qu'on peut visiter.
Les bonobos, pourquoi? Parce que les bonobos dans la culture teke constituent un animal tabou. Dans la culture teke, on considère les bonobos comme un cousin, comme un individu qui a fui dans la forêt pour n'avoir pas payé une dette. La légende dit que bonobo vivait avec nous, c'est notre congénère. Faute de payer une dette, il s'est enfui dans la forêt. C'est pour cela, chez nous, les bonobos sont protégés par les lois.
Ah, c'est ce que la légende teke dit.
Oui, et chez nous...
Et pourquoi le bonobo a fui la communauté pour aller dans la forêt?
Il avait une dette.
De qui? De combien? Ou de quoi?
Je ne sais pas. Et pour le moment, il a payé cette dette au-delà même de ce qu'il devait payer.
Ok.
Puisqu'on organise les visites autour des bonobos et ça paye et les populations reçoivent des revenus qui leur permettent de construire des écoles.
Donc chez le peuple teke, le bonobo était un animal particulier.
Particulier. Il a un statut particulier.
Ok.
Donc il y a des lois coutumières qui disent... Il ne faut pas toucher à un bonobo, il ne faut pas manger sa viande, il ne faut pas les chasser. Si vous osez faire ça, donc vous serez frappé des malédictions.
Par les ancêtres.
Oui, par les ancêtres. Donc, célibat prolongé, maladie incurable, des célibats. Donc, beaucoup de mauvais sorts vont te suivre.
C'est pour cela que vous focalisez plus sur le bonobo, pas sur les autres animaux.
Bon, les autres animaux bénéficient d'une protection derrière les bonobos, tels que les petits singes. Comme il y a des forêts, puisque nous avons des self-sales, ce sont des forêts des communautés locales. Hein? Les communautés ont érigé des règles, dit qu'on ne peut pas chasser ici, partir d'ici, ce sont des zones agricoles. Là, ce sont les zones de conservation. Donc, eux-mêmes, ils ont érigé des règles pour protéger leurs forêts. Donc, si vous osez toucher, vous serez frappé par des maladies. C'est pour cela que Mbomotour a focalisé sa campagne de sensibilisation en revalorisant les us et coutumes locales. C'est ce qui a fait pour nous, comme on dit, cheval de bataille. Nous sensibilisons à nous basant sur les us et coutumes locales. Et nous avons créé des self-sales pour protéger, renforcer la protection de l'habitat des bonobos. Puisque là, avec les self-sales, les populations sont maîtres de leur forêt. Hein, ils vont décider de ce qu'ils vont faire comme exploitation.
D'accord.
Ok.
On va accueillir un auditeur. Kisimba, vous êtes en Bandaka. Bonjour. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au développement? De l'écotourisme?
Oui, à mon avis, vraiment, c'est déplorable ces derniers temps, parce que si vous voyez l'état de notre jardin ou des parcs, c'est vraiment regrettable. Je peux prendre l'exemple d'ici à Mbandaka avec notre jardin d'Iala. Aujourd'hui, les gens de Mbandaka n'ont pas encore ce courage d'aller encore passer un temps là-bas, parce que jusque-là, même couper les herbes dans des endroits, c'est un peu impossible. Les gens ne coupent pas, il y a l'incapacité de travail au même moment là où nous payons.
Donc, vous voulez dire que le jardin de Yala n'est plus entretenu? Il n'y a plus d'entretien?
Oui, oui, voilà. C'est ce que je vous demandais à l'invité. Avec l'argent que nous faisons chaque fois pour y accéder, l'argent là pour quoi? Et parce qu'on ne voit pas de changement dans les jardins et d'autres places.
D'accord, merci d'avoir appelé. Il se demande les jardins de Yala Mbandaka, qui jardin botanique qui a abandonné, qui n'est plus entretenu, et pourtant les gens payent pour y accéder. Il veut savoir pourquoi ce jardin est presque abandonné. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, personnellement, je ne suis pas de là. Je n'ai jamais vu ce jardin, mais quand j'examine la situation, je vois que c'est la responsabilité de l'État. Puisque ce jardin-là, botanique, c'est un site de l'État, non? Mais l'État l'a abandonné, il n'y a plus d'entretien. Je ne sais pas s'il y a des travailleurs qui sont là pour faire l'entretien, pour suivre l'évolution de la végétation, tout consort. Comme l'auditeur dit que c'est abandonné, donc ça signifie qu'il n'y a plus de suivi. Donc l'État doit mettre des moyens pour faire les suivis, afin de réhabiliter ces jardins.
Voilà, et, il faut faire le suivi par rapport à ce jardin. Nous parlons du développement de l'écotourisme, comment promouvoir l'écotourisme, avec M. Claude Monguemo, chargé de la recherche à l'ASBL Mbou, Montour. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-99-41.
Retrouvez le flash info de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42-502 puis le 313 pour ne rien rater de l'actualité du pays. Le Flash Info de Radio Okapi, avec vous, partout et comme vous voulez, sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois, au 42-502, uniquement réservé aux abonnés, vous d'accord.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien, qui s'intéresse aujourd'hui à l'écotourisme, comment promouvoir l'écotourisme. Nous parlons du cas de Mbou, l'ASBL Mbou, Montour, voilà, qui amène les gens dans le... Vous avez dit que c'est dans le... à Bonobo. Il y a 6 villages à Bonobo où on peut aller...
voir les bonobos.
Dans le Maïndombe.
Dans le Maïndombe.
Pour aller voir les bonobos.
Les bonobos.
Voilà. Donc, il y en a combien?
Les bonobos viennent de la déformation du mont Bolobo.
Ah.
Pas parce que les premiers spécimens qui ont été emportés vers l'Europe, hein, on les mettait dans des caisses. Au lieu d'écrire des bonobos, donc provenance des bonobos, celui-là a oublié d'écrire des bonobos.
Bonobo.
Et c'est resté comme ça, on commence à appeler, comme c'était une nouvelle espèce de chimpanzé qu'on avait découvert, on dit bonobo. Donc des bonobos, bonobo.
Bonobo, ça c'est une déformation.
Une déformation du mot bolobo.
Bolobo, qui veut dire quoi, bolobo?
Bon, bolobo c'est le nom du territoire, hein. Je ne connais pas vraiment.
Ça n'a pas une signification.
Oui.
Voilà, c'est là où on retrouve beaucoup plus la plupart des bonobos. Ces chimpanzés sont là-bas.
Oui, oui, ils sont là. Vers l'équateur aussi, il y a des sites où on peut les trouver. Lomako, Salonga, partout là ils sont. Mais la différence est que chez nous, c'est dans un habitat forêt, mosaïque, savane. Donc, les écrits, les publications anciennes, on disait que bonobo ne vivait que dans des grandes forêts marécageuses. Or, c'était pas vrai. Or, à Bolobo, il y avait des bonobos qui vivent dans des mosaïques forêts savanes. C'est pour cela, en 2001, quand Moumoutour avait annoncé la présence des bonobos dans les territoires des bonobos, beaucoup n'avaient pas crié. Même les gouvernements ici chez nous n'avaient pas crié à ça. Ils ont dit que c'est faux. Pourquoi? Parce que là, c'est un habitat mosaïque, forêt savane. on ne peut pas voir des bonobos là-bas.
Les bonobos, c'est quoi l'habitat naturel des bonobos?
D'après les écrits anciens, on disait que c'est la grande forêt marécageuse, la forêt inondée. Or, ce n'était pas vrai. À Bolobo, avec la forêt ferme comme ça, on peut trouver des bonobos. Et dans des bonobos qui visitent même, qui fréquentent même la savane.
Il y a la savane là-bas. Ils fréquentent aussi la savane.
Oui. J'ai des photos des bonobos dans la savane, qui jouent dans la savane. Vous voyez. Donc, quand nous avons annoncé cela, les gens, même la communauté internationale n'avait pas crié à nous. Il fallait attendre en 2005, quand nous avons invité les chercheurs des WWF qui sont venus pour confirmer. Et ils ont confirmé, ils ont vu les bonobos, ils ont vu les indices de présence des bonobos. Et ils ont publié ça. Maintenant, les gens ont commencé à nous croire. C'était ça.
Oui, vous pouvez, là-bas, à Bolobo, vous pouvez avoir combien d'espèces, combien de... Disons, le nombre de ces bonobos, ça peut arriver à combien?
Oui, dans les sites que nous contrôlons, les derniers inventaires faisaient état de plus de 755 individus.
750
individus. Oui.
On va accueillir Safari depuis Gabarrière. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à monsieur l'invité. Oui, par rapport à l'émission... Avant tout, j'aimerais poser une petite question de savoir si M. Lévité est un agent de l'État ou bien c'est tout simplement donc une autorité.
Non, il est de l'Asbel Mbou Montour qui fait l'écotourisme à Maïndombe, particulièrement à Bolobo.
Ah, d'accord. Alors, par rapport au développement de l'écotourisme au niveau de la RDC, je pense que parfois, on doit laisser d'abord la responsabilité du gouvernement, donc agir comme notre invité, afin que le développement de l'écotourisme soit efficace au niveau du Congo, car l'État... parfois nous déçoit beaucoup. C'est seulement ça, donc je félicite M. Lévité par rapport à leur organisation. Sinon, alors, il y a beaucoup d'espoir. Donc, c'est seulement ça ma contribution par rapport à l'émission.
Merci. M. Martin Milolo, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis là.
Votre réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre?
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le secteur du tourisme en général est confronté à plusieurs défis d'ordre politique, d'ordre économique, mais aussi social. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir. Moi, j'encourage l'invité et leur organisation. Et nous demande, nous, les auditeurs, nous, les citoyens, de pouvoir multiplier ce genre d'émissions, ce genre de communication pour montrer qu'aujourd'hui, dans le contexte du changement climatique et de la protection de la biodiversité, l'écotourisme, en tout cas, peut être arrangé parmi même les minéraux que nous avons. Parce que notre pays est un scandale dans plusieurs domaines. Et notamment dans les domaines touristiques, parce que on ne peut pas comprendre que malgré le potentiel que nous avons sur le plan environnemental, que nous puissions manquer de pouvoir attirer le visiteur, que nous puissions manquer de pouvoir donc mettre en valeur ce que nous avons. On s'en tient aujourd'hui à citer le potentiel que nous avons sur le plan physique. Sur le plan, en tout cas, sur le plan environnemental, on a beaucoup de choses. On a parlé des animaux, mais nous avons, par exemple, les rivières comme Zongo. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un parmi nous qui a déjà été là. C'est incroyable. Nous avons les jardins botaniques de Kisantu, j'étais là. Et vous avez des espèces d'arbres qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la République démocratique du Congo. Ici, donc, l'interpellation est d'abord au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, de pouvoir prioriser ces sites. Il faut les aménager parce que pour visiter, pour aller quelque part, il faut que ça soit viable,
que les gens trouvent que, voilà, si on y va, on peut trouver quelque chose à manger. Si on y va, on peut en tout cas se reposer. On peut même avoir des hôtels pour dormir. Et donc, il faut un investissement dans ce sens-là. Mais aussi, comme je l'avais dit, il faut en faire vraiment une question d'abord éducationnelle. Il faut présenter les bien fondés du tourisme. C'est pas seulement les loisirs. C'est vraiment pas seulement les loisirs. Ça peut aussi être la source de la promotion de notre patrimoine pour capter les financements au niveau international, ainsi de suite. Toutes ces espèces-là, les bonobos, les autres, ainsi de suite, sont en train d'être fait l'objet de plusieurs fonds au niveau international. Il n'y a pas longtemps, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a eu une réunion de haut niveau sur comment promouvoir le financement des espèces en voie de disparition. Nous avons les léopards, nous avons par exemple ces bonobos-là, nous avons les jaguars, nous avons les okapis. Aujourd'hui, il y a les fonds dans le cadre de la lutte contre le changement climatique qui sont destinés à pouvoir financer leur protection. Et donc, promouvoir l'écotourisme, c'est aussi promouvoir la mobilisation des fonds en faveur de notre pays pour promouvoir notre développement. Et je vais chuter en disant que c'est moi ici, vers la fin, entre le 26 et le 28, nous aurons un sommet sur les trois bassins du Congo qui va se tenir à Brazzaville, les sommets sur les trois bassins tropicaux du monde. Et donc, il y aura aussi la question de la biodiversité, il y aura aussi la question des espèces protégées, et donc c'est l'occasion de pouvoir faire la lumière sur cette question cruciale de notre pays et d'en faire une priorité. Voilà ce que je peux dire à ce moment.
Bien, on va accueillir Valentin depuis Lebo. Valentin, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous de la radio.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la promotion de l'écotourisme?
Oui, concernant un peu ce sujet, je suis vraiment très ravi de cette thématique. Mais pour promouvoir un peu ce projet, premièrement, il faut la couverture routière. Nous n'avons pas de route. Quand nous parlons ici, prenons d'abord l'espace café ici. Il est beau, la route sur les lignes. Il est beau, Kananga, ainsi de suite. Il n'y a pas de route. Premièrement, il faut une couverture. Nous avons l'insécurité dans notre pays. Comment les gens peuvent circuler, aller fréquenter des sites touristiques aussi longtemps dans les espaces un peu à l'insécurité? Donc, premièrement, il faut un peu éviter, protéger un peu la population, bien tourner, faire des visites, ainsi de suite. Il faut que l'espace soit un peu calme. Et il faut aussi lancer des grands projets, et qui fait aussi de bien avancer un peu avec ce projet. Donc, c'est ça au moins. Le grand problème, c'est l'insécurité. Il faut que le pays soit calme, et ces espaces-là, nous avons un peu de parcs qui sont menacés. Bien que les endroits menacés, ainsi de suite. Bon, comment les visiteurs doivent avoir les soucis de venir, et ça, on ne trouve pas l'insécurité. Les transports, les moyens de transport, ces gens doivent se déplacer comment? Il faut qu'il y ait un peu de transport. Donc, c'est ça au moins ce que j'avais un peu à ajouter à ce propos-là.
Bien, merci. Monsieur Claude, à vous la parole.
Oui,
vous l'avez dit bien avant, pour promouvoir l'écotourisme, il faut la sécurité, il faut qu'il y ait les voies de communication, les routes, le marketing, vous avez parlé du marketing.
Oui, il faut que nous ayons aussi une politique nationale en matière d'écotourisme. Comment valoriser nos produits touristiques. Il y a des gens qui ne savent pas que nous avons des espèces endémiques ici. Puisque nous recevons des gens, quand ils viennent comme ça, ils vous demandent, j'ai entendu parler des bonobos. Vraiment, au juste, les bonobos, c'est quoi? Pourquoi vous vous intéressez aux bonobos? Donc, pour lui, c'est la première fois d'entendre les bonobos, puisque nulle part ailleurs, on peut trouver les bonobos.
Rien qu'ici, en RDC. Alors, comme l'Okapi aussi.
Oui, comme l'Okapi aussi. Donc, au niveau national, l'État doit avoir une politique, mais une politique de faire comment valoriser nos produits locaux. Surtout les produits endémiques. Comment les faire valoriser? Comment les faire connaître au monde international? C'est ça le problème. Donc là, nous avons les pompes d'insécurité, les pompes, l'accès routier, disons, les voies d'accès. Donc, il faut vraiment faciliter ça. Même les problèmes d'obtention des visas pour les étrangers pour venir ici. Même quand les étrangers viennent ici, les pompes de tracasserie. Quand nous partons avec les visiteurs dans nos sites, il y a toujours des pompes de DGM qui dérangent. Pendant qu'un visiteur qui a ses papiers, qui est en ordre avec les visas tout consort, mais on lui dérange dans les aéroports. Siandolo, dans les ports, il y a toujours des gens qui viennent.
Des tracasseries, on cherche à avoir de l'argent.
C'est ça. L'État doit taper sur ça pour faire disparaître ces tracasseries-là, puisque ça décourage aussi. Quelqu'un qui vient comme ça, il avait son budget bien calculé, mais il arrive, commence à donner par-ci, par-là quelque chose. Finalement, il se retrouve dans un impasse budgétaire. Il s'est dit, prochainement, je ne viens plus. Donc, tout ça, ce sont des problèmes que l'État doit essayer de régler.
Combien de visiteurs vous recevez là-bas, à Ambou, Montour?
Cela dépend des saisons, puisqu'il y a des visiteurs qui viennent quand ils sont en vacances.
Souvent pendant les grandes vacances.
Les grandes vacances, souvent. Souvent, à partir de septembre jusqu'au décembre, il y a beaucoup de visiteurs. Il y a beaucoup de visiteurs, puisque c'est aussi la saison des pluies. Et la saison des pluies, il y a beaucoup de fruits pour les bonobos. Ils sont observables facilement. Donc, pendant cette période, les gens
viennent. Ils mangent beaucoup les fruits.
Oui, ils mangent beaucoup les fruits. C'est ça.
Bien, merci Monsieur Claude Mongemo. Je rappelle que vous êtes chargé de la recherche au sein de l'ASBL Mou Montour, qui s'occupe de l'écotourisme dans le Maïndombé.
Oui.
Vous êtes seulement dans le Maïndombé ou vous ne travaillez pas dans d'autres parties du pays?
Bon, pour le moment, nous sommes dans le Maïndombé, dans les territoires des Bolobo. Nous sommes là pour la conservation. Et dans les territoires de Koutou, Mouchi, Inongo, Ikiri, tout comme ça, là, nous menons seulement les actions de sensibilisation. Des sensibilisations par rapport à la protection des bonobos.
Donc, qu'est-ce que vous dites aux gens?
Bon, je vais dire, nous, Mou Montour, nous sommes des communautés locales, nous travaillons.
J'ai dit dans cette sensibilisation-là, quels sont les messages que vous passez lors de ces sensibilisations-là?
Il ne faut pas tuer les bonobos.
Oui.
C'est une richesse, c'est une ressource qui peut nous amener beaucoup d'argent. Donc, il faut les protéger. Il faut les protéger. Pourquoi? Parce que cette espèce ne donne qu'un bébé après 4 ans. Alors, si vous les tuez, vous les massacrez facilement comme ça, ils peuvent disparaître.
Et il semble que le bonobo n'est pas agressif. Hein?
Non, il n'est pas agressif. À moins que vous les agressez, comme ça, il va répondre. Mais en les observant comme ça, ils ne sont pas agressifs. Surtout ceux qui sont habitués, ils ne sont pas agressifs. Ceux qui ne sont pas habitués, quand ils vont voir les humains, ils vont fuir. Mais ceux qui sont habitués, ils vont rester calmes. Ils sont là en train de vous observer, vous prenez des images. Ils sont calmes et ils sont tolérants.
Ils sont tolérants.
Oui, oui.
Bien, merci Monsieur Claude Mongemo. Nous disons également merci à Martin Milolo, coordonnateur de la jeunesse pour la justice climatique. Excellente journée et bonne semaine et à la prochaine.
Je voulais ajouter quelque chose.
Oui, allez-y
rapidement. L'action des Mou Montour avec les communautés locales en faveur de la conservation de la biodiversité, en faveur des changements climatiques, disons de la lutte contre les changements climatiques et en faveur de la conservation des espèces protégées, lui a valu des prix internationaux. En 2009, nous avons reçu les prix Alexandre Abraham des Américains pour la conservation de la nature. En 2021, nous avons reçu les prix HDN pour des solutions fondées sur la nature. En 2022, nous avons reçu encore les prix Équateur pour des solutions en faveur de la nature et des communautés locales.
Bien, félicitations.
Voilà, merci.
Excellente journée et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup.